Chers amis, autour de ce chapitre, une vocation eucharistique, je souhaiterais vous parler dans un premier temps du texte de Jean 2, de l'épisode des noces de Cana, et dans un deuxième temps, d'évoquer le lien entre mariage et la messe dominicale. Je vous invite à avoir le texte des noces de Cana sur les yeux pour en suivre plus facilement le commentaire. On nous dit que lors de ces noces, il n'y avait plus de vin. S'il n'y avait plus de vin, c'est symboliquement la joie des noces qui se termine. D'une certaine manière, on est confronté au fait que la quantité de vin est une quantité finie. La joie de ces noces, c'était ce que chacun nous avions apporté, chacun des conjoints avait apporté. Et voilà qu'il y a une quantité limitée qui peut s'épuiser. Et l'on va voir que Jésus va permettre que la joie des noces se prolonge. Il va permettre que la joie des noces se prolonge en apportant lui-même un vin nouveau. C'est sa présence lors de ces noces qui va permettre que la joie se prolonge, mais vous remarquerez que l'eau qu'il utilise pour faire ce vin nouveau et ce vin meilleur, c'est une eau, j'allais dire, tout à fait ordinaire. C'était l'eau qui devait servir aux ablutions, c'est-à-dire les purifications. On se lavait les mains, les pieds, le visage en arrivant de dehors. C'était pas l'eau la plus pure que l'on conservait pour boire. Non, c'est une eau tout à fait ordinaire. Et c'est cette eau de l'ordinaire que Jésus va transformer pour en faire le meilleur vin. Et donc, nous voyons ici pour le mariage humain, comment cette présence de Jésus est appelée à transformer l'ordinaire. C'est pas un événement extraordinaire qui doit arriver, qui doit intervenir. La joie profonde vient de la transformation par sa présence de ce qu'il y a de plus ordinaire dans l'existence des époux. C'est pas aller chercher un filtre à l'autre bout du monde ou sur une autre planète, c'est cette eau du quotidien qui est transformée et qui devient le meilleur vin. On voit que cela étonne le maître du repas. En effet, celui qui est chargé d'organiser la succession des plats et l'arrivée des boissons a pour habitude que l'on serve le bon vin d'abord, et quand les gens sont un peu gris, ils font plus la différence, on leur sert la piquette. Et là, il est tout étonné, il dit, mais tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et vous remarquez qu'il va voir le marié pour cela. Et de fait, c'était la responsabilité du marié que d'apporter le vin. Alors, dans cet épisode, si celui qui apporte le vin, c'est le marié, Jésus qui apporte le vin apparaît comme le marié, est révélé comme le marié. Mais alors, quelle est son épouse? Parce que, vous voyez, il n'est pas parti avec la fiancée de l'autre. Son intervention a été au service de la joie des noces de cet homme et de cette femme. Et pourtant, Jésus apparaît comme un époux. Et c'est dans l'évangile de Saint Jean, lorsque Jésus sera sur la croix, que le suspense sera levé. Mais il y a un lien qui est fait entre le chapitre 19 et ce chapitre 2, un lien entre ce sang versé, qui sera le sang de l'alliance, et le vin de l'alliance des noces que l'on voit ici en Jean 2. On retrouvera aussi l'intervention, la présence de la Vierge Marie, appelée tout à fait étonnamment femme ici et appelée encore femme au pied de la croix. Qu'est-ce que c'est que cette évocation de femme? Il y a deux hypothèses. Un homme peut appeler sa mère femme soit pour l'insulter gravement, soit parce que symboliquement il veut dire autre chose. Alors vous pouvez essayer de défendre l'hypothèse que Jésus veut insulter gravement sa mère, mais ça tiendra pas très longtemps la route. Ou bien on comprend que ce titre de femme, c'est en fait une évocation de ce premier nom de la femme, justement, dans le livre de la Genèse. Elle est la nouvelle Ève, elle est celle qui, justement, évoque cette humanité nouvelle, Et c'est pour cela qu'au chapitre 19, lui est confiée toute l'humanité à travers le disciple que Jésus aimait. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Jésus, sur la croix, apparaît justement comme l'époux qui livre sa vie pour son épouse. Le sang versé devient le sang de l'alliance nouvelle. L'épisode de Cana vient apporter à la croix une dimension nuptiale. L'épisode de la croix vient manifester quelle est la profondeur de l'amour dans lequel le mariage viendra plonger ses racines. Ce sera l'amour du Christ qui va jusqu'au bout, livré sur la croix. Ce texte de Cana apparaît donc comme une promesse donnée aux époux. Assurément, pour la joie de vos noces, vous avez chacun apporté de votre histoire, de vos qualités, mais voilà que Jésus vient vous offrir une quantité de joie en touchant, en venant transformer, en venant toucher de sa présence votre quotidien, vient offrir une joie qui ne s'épuisera pas. Vous voyez, c'est 6 jarres de pierre qui représentent environ 100 litres, donc 600 litres. Si vous mettez ça en bouteille, hein, c'est quelque chose comme plus de 800 bouteilles de vin qui sont produites. Il y a une surabondance de vin qui est annoncée, comme aussi une surabondance de joie liée à cette présence de Jésus. Et donc, c'est un signe pour les époux, j'allais dire, d'inviter Jésus à leurs noces, d'inviter Jésus dans la vie de leur mariage. Il est celui qui prolongera, qui perpétuera la joie de leurs noces. D'où un enjeu dans la vie d'un couple de savoir comment ancrer cette présence de Jésus au cœur de leur vie, au cœur de la vie de leur couple, au cœur de la vie de leur famille. Cela se passera à travers la prière personnelle, la prière de couple, à travers un engagement aussi dans leur communauté chrétienne, un engagement dans la société, mais cela se traduira aussi par une fidélité au sacrement de l'Eucharistie. Et je voudrais du coup aborder maintenant ce deuxième point entre le rapport de la messe et le rapport du mariage, le rapport entre le mariage et l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'acte par lequel on rend contemporain, présent, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est-à-dire le moment où il a scellé l'alliance nouvelle et éternelle, le moment où il a épouser l'humanité, où il a fait de l'humanité son épouse pour la vie éternelle, où il fait de l'Église son épouse pour la vie éternelle. Et donc, en fait, la messe, c'est le lieu où l'alliance étant scellée, c'est le lieu aussi où l'alliance matrimoniale qui représente cet amour de Dieu pour son peuple est aussi renouvelée. À chaque fois que des époux participent à l'Eucharistie, ils viennent renouveler, fortifier, vivifier le sacrement de leur alliance. En s'approchant et en communiant de l'alliance nouvelle et éternelle, les époux viennent vivifier leur alliance l'un avec l'autre, cette alliance qui est signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et donc là encore, c'est un grand secours donné à la vie conjugale que des époux puissent participer ensemble et régulièrement à l'Eucharistie. Le Seigneur nous appelle chaque dimanche à être participants à l'Eucharistie justement pour vivifier nos forces. Quand des époux participent à la messe, ils peuvent à la fois présenter dans leur semaine, j'allais dire, ce qui a été peut-être médiocre, ce qui a été incomplet, les refus d'aimer qu'ils ont vécu, les regards un peu méprisants qu'ils ont pu jeter l'un sur l'autre, et demander justement au Seigneur de faire mourir cette médiocrité sur la croix, de donner au contraire à leur amour, de ressusciter avec lui, que la puissance de son amour vienne ressusciter la flamme de leur union et vienne au contraire mettre à mort ce qui les divisait. Et en même temps, ils viennent aussi demander que soit consacré en vie éternelle ce qu'ils ont vécu de bon, ce qu'ils ont vécu de généreux, ces attentions, cette écoute particulière, ce secours mutuel donné l'un à l'autre, cet encouragement, cette collaboration dans la simplicité et dans l'ouverture de cœur. Ils viennent demander au Seigneur que son Esprit Saint, le même Esprit Saint qui va faire que le pauvre pain et le pauvre vin qu'on apporte vont devenir corps et sang de Jésus-Christ, vie divine, ils demandent que ce même Esprit Saint descende sur l'offrande de leur vie, de leur semaine, pour que ce qu'ils ont vécu de bon, de vrai, soit consacré en vie éternelle, devienne rayonnement, force de la vie même de Dieu. En venant participer à l'Eucharistie, les époux viennent à la fois faire mourir ce qui a été médiocre dans leur union et consacrer, vivifier ce qui a été beau et bon pour rayonner de cet amour divin. Soyez donc vigilants à être fidèles à l'Eucharistie. Encouragez-vous, aidez-vous mutuellement à y être fidèles pour vous, pour votre couple, pour votre famille. C'est au cœur de l'Eucharistie que nous recevons ce pain de la route, j'allais dire de la même façon que nous avons besoin de manger chaque jour et même plusieurs fois par jour pour avoir les forces d'avancer sur le chemin de la vie, eh bien nous avons besoin de recevoir ce pain qui vient du ciel pour pouvoir avancer sur la route d'un mariage saint, d'un mariage qui soit droit, d'un mariage qui soit rayonnant. Que l'Eucharistie soit ce pain de la route dont vous êtes nourri, soit le lieu de renouvellement de votre alliance tout au long de votre vie. Voilà ce sur quoi je voulais insister autour de ce chapitre, une vocation eucharistique.